La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade. C'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Élie Guéraud, qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Clermont-Auvergne et qui a fait paraître il n'y a pas longtemps un livre vraiment très intéressant qui s'appelle « Le déclin de la petite bourgeoisie culturelle » qui a été publié aux éditions Raison d'agir. Eh ben, Élie Guéraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour un peu résumer, pour vos lecteurs pour nos auditeurs qui n'auraient pas... saurait pas trop de quoi ça parle et qui n'aurait pas entendu parler de cet ouvrage. En fait, ce que vous faites, c'est vous faites une enquête sur ce qu'on appelle donc la petite bourgeoisie culturelle. On y reviendra plus tard de ce que c'est dans une ville moyenne de province. Donc c'est un type de territoire qui échappe un peu à l'opposition un peu binaire, caricaturale qu'on fait entre la métropole, la France des bourgs et des campagnes. Enfin voilà, bon, du coup, c'est intéressant, vous sortez un peu de ces débats plus ou moins biaisés. Et donc, vous vous intéressez à l'ascension et puis une sorte un peu de déclin, donc cette petite bourgeoisie culturelle. Et puis, il faut dire que c'est une enquête, vous avez enquêté dans un territoire pendant au moins 10 ans et vous êtes même installé un peu 3 ans pour vous rendre compte donc, de ce que c'est d'être au plus près donc, des habitants auprès desquels vous avez enquêté. Donc ça, c'est un peu la démarche méthodologique. Et une question un peu que vous posez un peu en point de départ, c'est est-ce qu'on assiste à la remise en cause progressive d'un choix de société qui a placé ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la culture, la démocratisation du savoir, enfin des choses comme ça, au cœur d'un projet politique porté par un peu des gens, une certaine gauche un peu proche de ce qu'on peut appeler le parti socialiste. Voilà, en gros, c'est un peu les questions que vous posez, et un peu aussi sur votre parti pris, enfin sociologique, un peu vous appuyez sur les travaux de Pierre Bourdieu, hein, notamment l'ouvrage la distinction, hein, par rapport à ces différences de classe et de fractions de classe, en montrant un peu l'ascension et le déclin de ce groupe social, cette fraction de la petite bourgeoisie qui est la petite bourgeoisie culturelle. Donc, si vous pouvez peut-être aller un peu développer un peu tout ça, pourquoi vous avez enquêté là-dessus, qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans, pourquoi vous avez choisi cette fraction de classe particulière pour nos auditeurs, nos auditrices qui seraient peut-être intéressés par cette question.
Je vous remercie beaucoup pour ce résumé très clair effectivement de l'ouvrage, de ses objectifs, de son objet. Et ben, je vous remercie aussi beaucoup pour l'invitation, pour avoir suscité cette discussion. Alors, je vous répondrai en fait en plusieurs points. Alors, voilà, il y a plusieurs intérêts, il me semble, à enquêter sur cette petite bourgeoisie culturelle. Bon, le premier dont vous avez un peu parlé, c'est le contexte géographique singulier, mais pas complètement rare non plus, hein. Voilà, en France, aujourd'hui, on estime que il y a environ une personne sur quatre qui vit dans une ville moyenne. Et comme vous le disiez, ces villes moyennes, alors ces préfectures, sous-préfectures, échappent un peu à la dichotomie un peu caricaturale rural-urbain, dans le sens où on n'est pas dans une grande métropole, on n'est pas dans une capitale régionale, et dans un même temps, voilà, on n'est pas dans l'espace ruraux. Dans la ville de Lergne, alors Lergne c'est un nom d'emprunt pour garantir l'anonymat des enquêtés, donc la ville de Lergne n'existe pas, mais la ville de Lergne en fait elle présente des caractéristiques qui la font ressembler à beaucoup de villes moyennes du centre et du nord-est de la France. Voilà, c'est une ville où on va retrouver une antenne de l'université locale, une maison de la culture, un théâtre municipal, les collèges et les lycées de ce département qui est majoritairement rural. Bref, on retrouve en fait une offre culturelle, on retrouve des institutions liées à la massification scolaire. Et donc, on retrouve en fait une petite bourgeoisie culturelle qui est liée à ces institutions. Cette petite bourgeoisie culturelle, elle est composée en fait de professions qui peuvent être assez différentes. Voilà, des enseignants, des travailleurs sociaux, des artistes, des travailleurs, des intermédiaires du travail artistique. Etc., etc. Mais ce qui les réunit, c'est un certain rapport à la culture. Et voilà, c'est là où je m'inscris complètement dans la perspective bourdieusienne. Quand Bourdieu parle de petite bourgeoisie, déjà dans la distinction en 79, lui veut en fait mettre l'accent, placer la focale sur ce qu'il appelle la bonne volonté culturelle. Donc la bonne volonté culturelle, c'est de se tourner vers certaines formes de culture sans en maîtriser complètement les codes. Et surtout, ce qui caractérise cette petite bourgeoisie, alors que Bourdieu appelle nouvelle et que moi je vais appeler culturelle, mais on en reparlera, c'est cette idée que ce groupe social se tourne vers des formes culturelles, des types de cultures qui sont plutôt dans ce qu'il appelle les marges inférieures de la légitimité culturelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est à la fin des années 70, quand Bourdieu écrit ses lignes, c'est le jazz, le rock, et on pourrait compléter en fait dans les décennies qui ont suivi avec l'art contemporain, voilà, toutes ces formes de culture qui sont finalement pas complètement consacrées au sens de Bourdieu, encore une fois, mais qui sont montantes et qui commencent à être connues. Voilà, c'est aussi les contre-cultures anglo-saxonnes, etc., etc. Donc l'intérêt d'aller travailler sur ce groupe social, il est double, en fait. Il permet d'abord de renseigner un peu ce qui se passe dans ces villes moyennes, qui sont encore faiblement enquêtées, en fait, hein, par les sciences sociales. Et en même temps, d'essayer de rendre compte un peu de l'origine et du destin de ce groupe social particulier, voilà, qui a connu une croissance importante dans les années 70, 80, en lien avec le développement de l'État social, en lien ensuite avec les politiques culturelles menées par Jack Lang au ministère de la Culture dans les années 80, et qui connaît une fragilisation. Bon, on en reparlera certainement, je ne vais pas développer ce point-là, voilà, dans la période contemporaine.
Et tout ça, hein, ça s'est passé, on va dire, parce que vous intéressez aussi à la question électorale, parce qu'ils ont aussi une place dans le milieu politique local, au sein même des listes électorales, en concourant donc à la mairie, en revendiquant des postes des postes de responsabilité au sein de ce qui s'appelait à l'époque l'Union de la Gauche, puisque c'était dans les années 70-80, à la suite du programme commun entre le PS et le PCF. Et à cette époque-là, on peut dire que fin 70, même encore début 80, c'est l'avènement d'une sorte d'alliance de classe entre donc la petite les classes populaires et certaines formes de classe moyenne typologiste. Ce qu'on appelle, c'est les salariés qui sont ce qu'on appelle la main gauche de l'État, qui travaillent dans les services publics un peu d'État social, comme qui dirait. Donc voilà. Et cette petite bourgeoisie culturelle-là, le rôle qu'elle joue, c'est qu'elle parvient à exercer, vous dites, un quasi monopole sur tout ce qui relève de la culture au sein des institutions locales, des collectivités locales, etc., etc. Elle occupe des positions stratégiques dans cette institution, et donc des positions sociales, donc du coup, voilà, quand même, au sein de... C'est une certaine, ils ont une certaine légitimité, un certain pouvoir par rapport à d'autres. Voilà, ils sont en mode d'ascension et de un peu vers le haut, comme qui dirait. Et voilà, ça c'est pour au point de vue électoral. Et au point de vue plus sociale et politique. Ce qui est assez intéressant, c'est que bon, eux, ils se forment parce que c'est aussi c'est des gens du cru, des locaux qui ont étudié l'université, qui sont allés à la grande ville ou dans les grandes métropoles pour avoir le diplôme universitaire, parce qu'ils disposent d'un capital scolaire et d'un capital culturel qui les favorise un peu là où pour obtenir les positions sociales qu'ils ont acquis. Mais donc, du fait de cet lien au milieu local, ils vont acquérir ce qu'on appelle un capital d'autochtonie. Et tout ça se joue dans le cadre de l'interconnaissance, plus ou moins large, qui est propre un peu ville moyenne, où voilà, il y a des gens qui essaient de se connaître par interconnaissance et de former des groupes comme ça, un peu plus ou moins affinitaires. Et tout ça, c'est aidé aussi par la concentration d'une classe d'âge sur un même territoire. Donc, du coup, ça facilite ainsi les formes d'interconnaissance. Et au niveau politique, ce qui était intéressant, comment eux, ils analysaient, qu'est-ce qu'ils portaient au niveau politique et social, c'est que la question sociale, ils la pensent plus en termes d'exclusion qu'en termes d'exploitation et de domination de classe, et ils prétendent représenter la jeunesse par rapport au ce qu'ils appellent le vide socio-culturel. Et ça va être assez important par rapport à ce qui va se passer ensuite, plus tard, par rapport à certaines évolutions, et quand il y aura une certaine forme de crise, voilà, ça va avoir des. Ça va jouer dans les rapports qu'ils vont avoir avec les gens, avec la politique, avec d'autres classes sociales. C'est assez intéressant je trouve, de parler de ça, parce que ça éclaire beaucoup de choses quand même.
Oui, alors vous avez raison, c'est vrai que la question politique en fait est assez centrale dans l'ouvrage. Donc là encore, je pense qu'il faut que je reprécise deux, trois choses sur le contexte géographique, le contexte d'enquête. Donc on est dans cette ville fictive de Lergne, hein, le nom est fictif, qui est en fait une ville où l'Union de la gauche l'emporte dès 71. Ce qui en fait un cas relativement atypique, hein, parce que en fait, la grande victoire des listes d'Union de la gauche au municipal, c'est plutôt 77, avec ce qu'on appelle la vague rose de 77. Bon, de ce point de vue, Lergne est assez précoce, et donc voilà, une liste menée par le PS et le PCF va l'emporter dès 71. Donc, ce qui se passe dans les années 70, c'est que on va voir à Lergne un grand partage, on pourrait dire, et les communistes vont être chargés des compétences, des politiques culturelles, des politiques éducatives, des politiques sociales. Ce qui est là, pas du tout exceptionnel, hein. On retrouve ce grand partage aussi dans d'autres municipalités. Et donc, en fait, dans les années 70, donc les communistes ont cette compétence culturelle, ils vont diriger les institutions culturelles locales, vont avoir le poste d'adjoint aux affaires culturelles. Et dans les années 80, une nouvelle génération va peu à peu prendre la place. C'est celle dont on a un petit peu parlé là. Cette génération, en fait, elle a entre 15 ans et 20 ans à la fin des années 70. Elle se rencontre en fait dans une grande cité scolaire qui est le fruit des politiques de massification. Une grande cité scolaire qui réunit quelque chose comme 3000 lycéens à l'époque, des lycées technologiques, lycées professionnels, enfin ce qui sera plus tard le lycée professionnel et lycées généraux. Et donc elle se rencontre, cette nouvelle génération, autour de pratiques culturelles, électives, voilà, le rock'n'roll, les festivals, les radios libres. Et peu à peu, elle va continuer après le lycée, à s'investir dans ses projets culturels, et notamment à monter une liste en fait aux élections municipales de 1983. Et c'est quelque chose d'important, cette liste, parce qu'en 1983, en fait, la liste d'Union de la gauche, au premier tour, elle fait 48%. La gauche ne passe pas au premier tour, comme ça a été le cas en 77. Et elle se retrouve face à la droite, sans réserve de voix. Et donc, cette nouvelle génération, elle, a construit une liste qui est parodique, hein, qui s'inspire largement de ce qu'a fait Coluche aux élections nationales. voilà, une liste, alors je les cite, contre le vide à Lergne, qui se présente comme relativement apolitique, où aucun des colistiers n'a plus de 25 ans, ce qui est quand même, voilà, quand on pense aujourd'hui au retrait, on pourrait dire, de la vie politique institutionnalisée de la jeunesse, c'est quand même important de se dire que voilà, en 83, la liste ne comprend personne de plus de 25 ans. Et donc cette liste, en fait, qui est une liste, voilà, d'opposition, une liste un peu parodique, les socialistes vont être contraints de s'allier entre les deux tours à cette liste pour être sûr de l'emporter au deuxième tour. Voilà, en contrepartie, les socialistes offrent la possibilité de créer un local associatif pour ces jeunes militants, voilà, qui vont y organiser des expositions, des concerts durant toute la décennie. En 89, l'EPS va proposer à une partie de ces jeunes militants, donc on est 6 ans après, qui commencent à s'approcher de la trentaine, proposer donc des positions sur la liste d'Union de la gauche, ce qui va se conforter encore dans les années 90 et dans les années 2000, quand on reprend cette même génération au début des années 80, et qu'on regarde le conseil municipal de cette ville de Lergne dans les années 2000, on se rend compte qu'on a presque une dizaine de presque donc, du coup un quart du conseil municipal qui est composé de ceux qui étaient à l'époque donc des jeunes militants associatifs qui se retrouvent en fait dans les années 2000 à la tête de d'associations qui cumulent 300 000, 400 000 euros de subventions, qui peuvent avoir jusqu'à une quinzaine de salariés, de personnes qui sont directeurs, directrices de services dans les collectivités territoriales, qui peuvent cumuler différents mandats ou ne vivent que de leur mandat d'élu. Bref, c'est en l'espace d'une trentaine d'années, ces jeunes militants associatifs, ils ont connu une ascension sociale collective et ils se sont stabilisés comme ça sur des positions supérieures dans l'espace local, en lien avec le développement du socialisme municipal. Et donc, ce qui est intéressant en cette période des années 80, c'est qu'ils vont peu à peu en fait prendre la place entre guillemets des communistes dans les politiques culturelles. En se revendiquant, vous l'avez dit dans votre petite prise de parole là, mais en se revendiquant de la jeunesse, en se revendiquant du coup des nouvelles formes de culture qui émergent, soutenues par les politiques langues dans les années 80, le court métrage, le jazz, un festival de théâtre de rue qui va émerger et prendre de l'importance, etc., etc. Et voilà, donc c'est une jeunesse qui apparaît dans les années 80 comme relativement dépolitisée, ce qui en fait un peu dans l'air du temps. Voilà, c'est les années 80, c'est le moment où la notion de classe va péricliter avant de revenir après. Mais voilà, quand on regarde notamment les occurrences de la notion de classe sociale dans le champ académique, voilà, c'est dans les années 80 que tout ça s'effondre au profit des thématiques de l'exclusion. Des thématiques qui sont un peu périphériques à la question sociale et qui ne traitent plus directement, vous l'avez dit, la question de la classe sociale, la question de la domination, la question de l'exploitation. Donc voilà pour le parcours rapide de cette génération, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que elle émerge vraiment dans les années 80, suite à une alliance avec les socialistes, qui peut prendre la place en fait des communistes dans les compétences culturelles et occuper en fait une position qu'on peut qualifier d'hégémonique sur la scène associative locale, en fondant des associations dans les années 80 qui vont représenter ce qu'un sociologue qui s'appelle Mathieu Elie appelle des entreprises associatives marchandes. C'est-à-dire en fait des associations énormes en nombre de subventions qui s'appuient sur l'externalisation de services publics, donc qui ont des fonctions vraiment, vraiment importantes et beaucoup, beaucoup de salariés.
Et donc qu'ont des emplois payés, stables et rémunérés à une période où le chômage s'accroît.
Oui, voilà. C'est ça. Et donc on voit vraiment une ascension sociale collective qui est permise par ces politiques culturelles, mais aussi par ce que va construire ce socialisme municipal des années 80. En fait, il faut aussi voir que voilà, à l'échelle d'une collectivité, en fait, la stratégie des élus locaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'ailleurs, c'est pas du tout une spécificité du socialisme municipal, ça va être de construire des relais électoraux, enfin, ce que les politistes appellent des relais électoraux efficaces, c'est-à-dire des relais électoraux qui permettent de représenter différentes fractions de la population locale, d'en représenter les intérêts, voilà, d'en assurer la représentation politique pour mobiliser électoralement ces groupes-là. Et donc, quand cette nouvelle génération émerge dans les années 80 avec sa prétention de représenter la jeunesse, mais aussi voilà, à représenter ces nouvelles formes de culture, cette nouvelle manière d'habiter le centre-ville, etc., etc., l'idée des socialistes, c'est de dire bah, effectivement, on peut miser sur cette nouvelle génération pour mobiliser électoralement la jeunesse derrière l'union de la gauche. Bon, de la même manière, c'est assez peu présent dans le livre, mais je peux dire quelques mots de la politique de la ville dans les années 90. C'est un peu la même idée, voilà, l'augmentation des subventions à ces associations fondées dans les années 80, elle va se faire notamment par leur inscription dans la politique de la ville dans les années 90. Bon, politique de la ville qui est utilisée localement par les socialistes aussi comme une manière de mettre un pied dans les quartiers d'habitat social. En fait, quartier d'habitat social qui était un peu la chasse gardée, entre guillemets, des communistes et de leur réseau militant. Pour pouvoir encore une fois servir de relais électoraux dans ces quartiers d'habitat social, voilà, pour essayer de mobiliser électoralement les habitants. Donc voilà, c'est en devenant finalement les relais électoraux des socialistes que cette petite bourgeoisie culturelle elle va connaître une ascension, une stabilisation dans les années 80, 90. Avant d'arriver sur la période des années 2000, qui est une période de basculement, dont on reparlera peut-être un peu plus tard dans l'entretien, donc je vais peut-être me taire là-dessus, et les années 2010, qui sont clairement voilà, le moment de la fragilisation.
Et ben c'est ce qu'on va aborder après la pause musicale.
Celui-là, c'était Joe qui était sorti par une belle nuit d'été, il avait quelques pavés dans les poches, quelques bouteilles prises au bar du coin. Ça a donné Riots and Dance.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter le groupe The Brigades et le titre du morceau c'est Riot and Dust. C'était un groupe connu des années 80 à l'époque du rock alternatif, mais très engagé, beaucoup plus que sa petite bourgeoisie culturelle. Voilà. Du coup, on était donc par rapport à cette métamorphose qui va se passer dans les années 2000 et 2010. Et ce qui est intéressant, hein, pour voir un peu déjà comment ça se passe, c'est que l'ascension de cette petite bourgeoisie culturelle, elle s'est effectuée, enfin, les petites distinctions de classe, elles sont faites, hein, dès les choix d'orientation professionnelle à la sortie du lycée, où les aspirations et les vocations vont commencer à structurer les trajectoires personnelles, les expériences personnelles, pour, entre domination, élévation sociale pour certains et d'autres qui n'auront pas les mêmes. Et ça contredit quelque part l'injonction à l'individuation, à la mobilité, parce qu'il y en a certains qui ont les moyens de rester sur le territoire et pour du travail, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Et dans des villes moyennes qui ont certaines images qui sont en bas de la hiérarchie symbolique des territoires, et ben, d'avoir une position, enfin de travailler et d'avoir une position là-bas, c'est, voilà, c'est quelque chose. C'est différent de grandir dans des territoires en déclin que Bruno Coquard avait étudié, qu'on avait. Avec qui on avait un entretien les années précédentes, ce n'est pas du tout les mêmes configurations. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Et c'est dans ces endroits, ce n'est pas les mêmes configurations. Il y a plus de facilité pour avoir pour s'élever et rester localement. Mais par rapport, donc, une fois que les subventions étatiques, de politique publique, territoriale, qui ont beaucoup misé sur. Les travaux, les emplois au niveau scolaire, donc que ce soit au niveau professeur à l'école ou le directeur d'association, d'institution culturelle. À partir des années 2000, il y aura un désengagement de l'État à travers donc, la RGPP et d'autres choses comme ça, et donc les subventions vont se tarir. Et du coup, ça va un peu enrayer l'ascension de cette classe. Mais aussi, c'est aussi un moment où de désindustrialisation, donc de décroissance démographique pour certaines populations. Et normalement, dans les villes moyennes, il y a aussi un certain déclin. Et... qui va commencer ce déclin aussi, qui va aussi c'est dans les centres-villes qui sont habités par ces petites bourgeoisies culturelles, comme vous l'avez dit, parce que c'est aussi une période où, dans ces villes moyennes de province, il y a une évolution avec une construction de méga-centres commerciaux en périphérie, ce qui va entraîner la désertification des centres-villes et de leurs boutiques et un changement aussi de ce cadre et de ce qui s'y passe, parce que la petite bourgeoisie culturelle dans le centre-ville, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait investi un peu son territoire, parce qu'elle faisait un peu des festivals de rue, des repas de quartier, etc., etc. Elle avait un peu investi, c'était un peu son... Et c'était un peu chez elle, mais avec cette reconfiguration-là, il va y avoir des classes populaires qui vont s'installer dans les centres-villes, classes populaires qui n'ont pas du tout les mêmes usages de l'espace et du quotidien, et ni les mêmes codes sociaux d'ailleurs. Du fait que cette petite bourgeoisie culturelle elle va un peu perdre de son pouvoir et de son intérêt, les fractions les plus... les plus fragiles, celles qui sortent vraiment en déclassement, elles vont faire preuve d'un mépris social et d'un mépris de classe par rapport aux classes populaires auxquelles elles prêtent des caractéristiques négatives, consommation d'alcool, de bidouillage de leur voiture dans la rue, enfin voilà, tout ça leur plaît pas trop. Apparemment, ils feraient pas du tri, ils auraient pas des éco-gestes, ça serait pas des bons éco-citoyens. Ils seraient peut-être racistes, ils voteraient peut-être pour l'extrême droite. Cette forme un peu de mépris de classe qui va un peu c'est une certaine bourgeoisie de gauche, pas tous, faut pas non plus en faire une généralité, mais quand on avait interviewé il y a quelques années Nicolas Renaï qui avait dirigé un ouvrage là-dessus, et c'est voilà, ça existe quand même cette forme de mépris de classe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va se jouer aussi par rapport aux élections dans les années 2000, où le débat électoral, il va plutôt que se porter sur les questions socioculturelles, il va se porter sur les questions économiques et sociales, dans un contexte de paupérisation et de décroissance démographique de l'endroit, ce qui va primer un peu dans le vote pour les listes sans étiquette, mais qu'on peut dire un peu libérales, tendance macroniste, qui va avoir la mairie. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir toutes ces évolutions et comment ça joue aussi sur le paysage local pour cette fraction de classe, quoi.
Oui. Alors, du coup, je réagis sur une toute petite chose sur le côté cette nouvelle génération, elle est moins politisée, etc. En fait, voilà, c'est vrai que je pense qu'en fait, c'est un autre mode de politisation. Il y a vraiment une rupture qui est dans l'air du temps. Voilà, je pense que les personnes de cette génération au début des années 80 ne seraient pas forcément d'accord pour dire qu'elles étaient moins politisées. En fait, voilà, c'est vraiment une politisation où la question sociale est un peu mise de côté, un peu euphémisée, au profit de ce que les sociologues appellent un peu les nouveaux mouvements sociaux, l'écologie, voilà, et du coup, enfin, voilà, la démocratisation de la culture, etc., etc. Du coup, voilà, en tout cas dans les représentations qu'a cette nouvelle génération de cette manière de monter sur la scène associative puis sur la scène politique, voilà, leur idée, c'est pas de enfin, en tout cas, eux assumeraient pas une dépolitisation, mais plutôt une nouvelle manière de s'engager où, comme on l'a dit, la notion de classe est moins centrale. Ce qui préfigure d'ailleurs les transformations du Parti socialiste qui vont se prolonger dans les années, dès le tournant de la rigueur, en fait, hein, de Mitterrand. Ce moment où en fait le pouvoir exécutif de gauche renonce en fait au socialisme, on pourrait le dire, hein, et au contraire, voilà, opère un tournant de ce fameux tournant de la rigueur, ce qu'on retrouve dans les années 90, et peut-être encore davantage 2000 et 2010, et je pense notamment au mandat de François Hollande, hein, qui a précipité en fait la fin du PS national. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on en reparlera. Mais du coup, voilà, je voulais juste apporter cette petite nuance. Je ne suis pas sûr que ce soit moins politisé, mais vraiment politisé autrement, autour d'autres questions, c'est d'autres modes d'engagement. Ensuite, voilà, pour reprendre un petit peu le fil de ce que vous venez de dire, effectivement, je pense qu'il faut maintenant parler de la période des années 2000 et 2010, qui est une période, voilà, de fragilisation de ce groupe social pour différentes raisons, et une fragilisation qui ne touche pas l'ensemble des membres de ce groupe. Alors, vous l'avez dit, il y a des différences déjà d'origine sociale, hein, entre les membres de ce groupe, des origines sociales qui vont avoir des effets en fait dès la fin des années 70 et dès le début des années 80. Voilà, les jeunes qui viennent plutôt de ménages ouvriers à la fin des années 70, en fait, ils sont plutôt promis à l'usine. Voilà, ils sont écartés de la perspective de quitter Lergne, d'aller poursuivre des études dans des grandes villes. Quand les jeunes mieux dotés, voilà, issus des classes supérieures locales, eux partent faire des études, le plus souvent à Paris, et vont revenir dans les années 80, en fait, pour exercer leurs fonctions politiques ou pour lancer des manifestations culturelles. Donc on a déjà, voilà, même si cette jeunesse, on l'a dit, elle est voilà, dans la même cité scolaire, elle se rencontre au lycée, autour du rock, des contre-cultures anglo-saxonnes, des radios libres, ben, en fait, après le lycée, on va avoir une séparation des trajectoires et qui va avoir en fait des effets tout au long des décennies qui vont suivre. C'est-à-dire que voilà, ceux qui sont partis faire des études et qui sont revenus, eux vont occuper les mandats d'élus, les positions de cadre dans la fonction publique territoriale, quand voilà, les jeunes moins dotés vont opérer une reconversion, mais moins, comment dire, moins stable, vers des positions qui sont plus fragiles dans l'espace local. Ensuite, il y a une différence de génération qui est vraiment aussi importante. Et toute la question aussi qu'il y a dans le livre, c'est la question de la reproduction de cette petite bourgeoisie culturelle. Et la fragilisation du groupe dans les années 2000 et 2010, dont je vais parler tout de suite, mais voilà, elle frappe davantage les plus jeunes, ceux qui en fait n'ont pas connu ce contexte des années 80 et qui n'ont pas pu reconvertir leur engagement associatif ou politique dans des positions stables dans le monde professionnel local. Donc, ouais, du coup, voilà, je vais revenir sur cette fragilisation. En fait, cette fragilisation, on la voit déjà émerger dans les années 2000, avant même, en fait, les élections municipales de 2014, bon, sur lesquelles je reviendrai après. Quand on fait, par exemple, les trajectoires économiques des associations, voilà, en allant fouiller dans les archives, c'est des choses que j'ai faites sur chacune des associations dans l'espace local. Donc, en fait, voilà, on regarde concrètement, hein, à partir de quand elles ont touché des subventions, de la part de qui, est-ce qu'il y a eu du mécénat, à partir de quand elles ont commencé à embaucher des salariés. Ça permet vraiment, voilà, de reconstituer toute une trajectoire et de voir à la fois quelles sont les activités de l'association, quels sont ses revenus et comment elle dépense ses revenus, voilà, la plupart du temps en achat de spectacles, en fait, ou en salariant des personnes. Et donc on voit que toutes les associations sont concernées par cette ascension dans les années 80 et 90 dont j'ai parlé, mais par une période de stagnation et de régression dans les années 2000. Donc c'est un moment, les années 2000, où en fait les partenaires publics mais aussi privés, voilà, l'État, la DRAC, les collectivités territoriales, les entreprises locales qui pouvaient donner de l'argent, commencent à se désengager dans les années 2000. Et surtout, en fait, à partir de la fin des années 2000, donc pour différentes raisons, il y a la crise de 2008, il y a le tournant RGPP. Alors RGPP, c'est la révision générale des politiques publiques. C'est un moment très particulier dans les politiques publiques en France où, en fait, voilà, on va assumer une orientation générale qui est une orientation de réduction des dépenses publiques. Donc voilà, on le voit émerger dès les années 2000. Ensuite, donc dans les années 2000, par exemple, certaines de ces associations vont être contraintes de licencier leurs salariés. Voilà, les conditions de travail dans les collectivités territoriales vont fortement se dégrader. C'est ce moment où en fait les collectivités vont recruter essentiellement des contractuels avec des conditions d'emploi dégradées, avec des conditions salariales beaucoup moins favorables que ce qui pouvait se faire dans les décennies précédentes. Et ensuite, on a donc le moment 2014. Alors, je ne sais pas si vous avez une question là-dessus ou si j'y reviens tout de suite. Si j'y reviens tout de suite, en fait, ce moment 2014, c'est le moment où, à l'occasion des élections municipales, l'Union de la gauche va perdre les élections. Donc, on l'a dit, hein, cette Union de la gauche, elle est au pouvoir depuis 71. Donc, c'est 43 années de socialisme municipal qui vont assez brusquement s'arrêter, avec des conséquences importantes pour cette petite bourgeoisie culturelle. Voilà, donc il faut bien voir que le socialisme municipal avait installé comme ça ce qu'on appelle des ressources clientélaires, c'est-à-dire en fait le fait qu'une partie des ressources de la collectivité était dirigée en fait vers une partie de ses relais électoraux. Encore une fois, je dis ça, il ne s'agit pas du tout de stigmatiser le système du socialisme municipal. Toutes les, en fait, voilà, c'est un résultat qu'on observe en fait, toutes les tendances politiques. C'est une municipalité dirigée par des élus d'une certaine couleur politique va toujours avoir tendance à diriger une partie de ses ressources vers ses relais électoraux. Voilà, c'est quelque chose qui est ultra classique, qu'on voit depuis très longtemps et qui transcende tous les clivages politiques. Bon, en tout cas, du coup, ce qui va se passer en 2014, c'est que ces ressources clientélaires qui pouvaient aller en direction d'associations culturelles, de la petite bourgeoisie culturelle, ces ressources clientélaires, elles vont se retrouver redirigées ailleurs. À côté de ça, on retrouvera aussi des mesures symboliques fortes. Alors, celle que j'aime bien citer, c'est par exemple en 2014, avec la victoire d'une liste sans étiquette, mais en fait qui est alliée à l'UMP et l'UDI entre les deux tours. Donc voilà, elle est plutôt centre-droit. Voilà, cette nouvelle équipe municipale va faire le choix, par exemple, de supprimer la direction des affaires culturelles de l'organigramme de la collectivité, qui va être remplacée par le service des projets événementiels. Voilà, le terme déjà dit beaucoup de choses sur le revirement que va opérer la collectivité. De 2014 à 2022, alors les dernières données ne sont pas dans le livre parce qu'elles n'étaient pas sorties au moment de la rédaction, mais je suis allé les voir depuis, les subventions aux associations en euros constants vont être divisées par 3 en l'espace de 8 ans, ce qui est considérable, hein, voilà. On parle beaucoup de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui coupe les subventions aux associations. Bon, on n'est pas sur une division par 3, hein. Là, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Donc voilà, ce moment 2014, il vient accélérer un mouvement de fragilisation qui avait commencé avant par voilà, ce qu'on appelle les politiques d'austérité ou le retrait territorial de l'État. Ça vient l'accélérer, notamment en éjectant de leur position d'élu bah, les représentants de cette petite bourgeoisie culturelle qui pouvaient, pour une partie d'entre eux, voilà, avoir une position sur la scène politique. Ça va réduire encore les subventions aux associations et également voilà, fragiliser cette petite bourgeoisie culturelle qui s'était fixée dans les collectivités territoriales. Voilà, par exemple, en mettant au placard une partie de ses membres dans des bureaux sans téléphone, sans ordinateur, sans fonction, voilà, jusqu'à les faire craquer, en fait, hein, c'est l'idée, les conduire vers la démission. De la même manière, juste après cette élection de 2014, une réorganisation totale des services des collectivités va être organisée. Et là aussi, pour réorganiser complètement les positions de pouvoir dans cette collectivité et en partie séparer de ces positions les sympathisants socialistes les plus affirmés ou les membres, on va dire, les plus importants de cette petite bourgeoisie culturelle.
Et voilà, ça c'est d'une part. Et d'autre part, donc du fait de cette... ce déclin qui commence à arriver, donc il va surtout toucher la génération née dans les années 80 plutôt que née dans les années 60 qui avait acquis donc les postes à responsabilité dans la culture, qui sont quand même mieux sortis parce qu'ils avaient quand même acquis des positions sociales supérieures alors que la génération 80 avait à peine eu le temps de les acquérir. Donc c'est eux plutôt qui sont fragiles et qui auront plutôt les caractéristiques dont on a parlé de rejet de certaines altérités populaires, des classes populaires qui ne respecteraient pas les bons codes politiquement corrects, on va dire. Et du coup, qui commence à... C'est là où, enfin, voilà, ça commence à s'exercer un peu au quotidien, la prise des distances... entre milieu populaire et une certaine gauche, mais qui a eu lieu politiquement, les politiques de gauche, politiquement et symboliquement, mais là, c'est pratiquement au quotidien, c'est un peu du vécu. Et d'autre part, pour ceux qui s'en étaient quand même un peu sortis, ils vont réajuster leurs aspirations en s'inscrivant dans l'air du temps, dans le repli individuel, familial, le désir de propriété, de détenir des marchandises authentiques, légitimes, qui conforteraient un peu leur esthétique et leur style de vie, tout ça, loin de tout projet collectif et public, pourtant qui portait dans les années 80, avec derrière des grands idéaux. Donc c'est quand même aussi un peu dans l'air du temps du libéralisme, de l'individualisme triomphant, et voilà, donc ça quand même c'est à noter. Mais une telle voie de sortie, c'est pas à la portée de tous, hein. Ceux qui peuvent, qui ont un patrimoine économique, qui ont une certaine stabilité conjugale, ou qui ont des garanties économiques, ils peuvent, mais d'autres ne peuvent pas, donc voilà, donc ça fragilise aussi cette fraction de classe, entre celle qui est un peu plus stable et celle qui est un peu plus fragilisée. Et vous avez un peu enquêté chez certaines personnes et vous avez vu ça, enfin dans votre enquête, vous avez pu témoigner de ça dans le livre. C'est assez intéressant ce que vous en dites, voilà, de ce tournant-là aussi. Et donc voilà, ça c'est aussi intéressant. Donc peut-être on va peut-être parler de ça et après on fera la dernière pause et puis on fera peut-être la conclusion après, mais ça aussi c'était assez intéressant par rapport à donc une sorte de déclin de fuite un peu de cet idéal un peu utopique qui était porté et le quotidien un peu borné, on va dire.
Oui, et merci beaucoup pour m'avoir lancé là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai un peu oublié de parler des conséquences de cette fragilisation qui constitue en fait le dernier chapitre du livre et qui est un moment très important. Voilà, ce que j'ai essayé aussi d'analyser, c'est la manière dont cette fragilisation, en fait, elle va avoir des effets sur les conduites de sociabilité du groupe, sur la manière dont le groupe investit l'espace public, sur son rapport aussi à l'altérité sociale, donc aux classes populaires, mais aussi à la droite de l'espace local, c'est-à-dire en fait aux fractions économiques des classes supérieures qui prennent le pouvoir municipal. Et donc j'étais content aussi que vous mentionniez Nicolas Renaï et son travail sur le mépris de classe, parce que du coup j'y avais aussi un petit peu contribué. Et il me semble effectivement que cette fragilisation, elle nourrit des formes de mépris de classe qui peuvent être dirigées en fait en bas de l'espace local ou à droite de l'espace local. Alors en bas de l'espace local, parce que voilà, j'ai pas développé là-dessus, mais la ville de Lergne est une ville en décroissance. Qui est sujette à la paupérisation. C'est-à-dire que voilà, on est dans une ville où le coût de l'immobilier est très faible, où il est très facile de se loger, y compris dans le centre-ville, pour vraiment pas grand-chose. Ce qui fait qu'on constate dans les années 90 et 2000, en fait, une croissance des classes populaires au sein de ce centre-ville. Centre-ville qui était par ailleurs investi par la petite bourgeoisie culturelle, où voilà, elle avait pu accéder à la propriété, où elle avait l'habitude d'organiser ses manifestations culturelles sur les grandes places, etc. etc. Bref, et donc cette décroissance et cette montée, on pourrait dire, des classes populaires dans le centre-ville, elle vient un peu contredire le modèle d'urbanité qui est porté par cette petite bourgeoisie culturelle, bon, modèle d'urbanité qui en fait reprend celui du centre ancien, réhabilité, avec les petits cafés, qui est porté aussi par les gentrifieurs des grandes villes. Hein. Voilà, de ce point de vue-là, la petite bourgeoisie culturelle du bas Montreuil ou des pentes de la Croix-Rousse à Lyon est assez semblable sur ses aspirations à celle de Lerne. Voilà, sauf que comme elle est dans un territoire où finalement elle perd du point de vue aussi sur la scène résidentielle, voilà, elle va se retrouver confrontée à ces classes populaires, face auxquelles elle va développer un mépris de classe relativement important. Alors, ce chapitre sur le mépris de classe, il peut être reçu de manière un peu, comment dire, un peu forte, un peu moralisatrice. Bon, du coup, j'aimerais dire quelques mots là-dessus et essayer de mettre de la distance. Hein. Voilà, il s'agit vraiment pas, et je pense que Nicolas Renaï, vous l'avez peut-être dit quand il est intervenu sur cette question du mépris de classe, il s'agit vraiment pas de pointer une faute morale. Il s'agit vraiment pas de dire, voilà, nous, sociologues, de notre tour d'ivoire, on est au-dessus des jugements et on va donner des bons points ou des mauvais points aux gens qui jouent bien ou qui jouent mal. L'idée, c'est vraiment de montrer comment en fait on a cette fragilisation au long cours, hein, voilà, qui n'intervient pas qu'en 2014, qui est là avant. Le fait en fait de se retrouver dans un contexte où des années, voire des dizaines d'années de militantisme associatif et politique, en fait, se retrouve confronté à une impasse, tout ça va conduire en fait à se replier entre guillemets sur ce qui fait le groupe. Et ce qui fait le groupe, c'est aussi un certain style de vie, des dégoûts qui peuvent venir entrer en contradiction en fait avec les modes d'occupation populaires de l'espace public. Voilà, par exemple les mécaniques de rue, voilà, par exemple le fait de consommer de l'alcool dans des canettes dans la rue, etc., etc., qui sont autant de comportements qui vont être un peu décriés, un peu regrettés par cette petite bourgeoisie culturelle. Donc vraiment, voilà, il s'agit pas de dire « regardez comme ils sont méchants », alors qu'il y avait une alliance de classe entre classe populaire, petite bourgeoisie culturelle dans les années 70 et 80. Cette petite bourgeoisie culturelle se détourne des classes populaires et c'est pas bien. Voilà, il s'agit vraiment pas de dire ça. Il s'agit de montrer comment, en fait, un groupe qui est fortement fragilisé, fortement déstabilisé, une des stratégies collectives qui peut être mise en place pour continuer d'exister, pour continuer en fait de faire groupe, hein, c'est de se replier justement sur ce style de vie, sur ses aspirations, sur ses goûts et sur ses dégoûts. Donc voilà, c'est un premier point. Et donc je disais, voilà, ce mépris de classe peut être dirigé vers le bas de l'espace social. On va regretter la présence de ceux qui sont appelés les cas sociaux, voilà, dans le centre-ville, mais aussi vers la droite de l'espace social. Et vers la droite de l'espace social, ça cible plus précisément en fait les fractions économiques des classes supérieures qui prennent le pouvoir sur la scène municipale, mais aussi sur la scène associative, et qui vont peu à peu fragiliser les positions qui ont été conquises dans les années 80 et 90. Donc là aussi, hein, on va avoir un mépris de classe qui est non plus vertical, non plus du haut vers le bas, mais de la gauche vers la droite. Voilà, ce qui va être moqué, c'est notamment le fait de ne pas maîtriser complètement les codes scolaires liés à la culture savante, etc. etc. Mais voilà, en tout cas, voilà, je voulais juste mettre, avant de faire notre petite pause musicale, mettre en garde là-dessus. Hein. Il n'y a vraiment pas de jugement moral. Hein. L'analyse sociologique, elle essaie plutôt de comprendre des mécanismes de fond, des mécanismes au long cours qui peuvent expliquer ce repli sur soi.
Eh ben, on va faire la pause avant de faire la conclusion. Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. Et ben on écoute toujours le groupe The Brigades et le titre du morceau c'est The Vienna Boys. Et ben on va finir par la conclusion, l'ouvrage donc de votre ouvrage Le déclin de la petite bourgeoisie culturelle. Et en fait ce que c'est intéressant de cet ouvrage parce que vous le dites. Hein, et ça revient autant à rendre compte de certaines des grandes transformations qu'a connues la France dans les dernières décennies, par exemple désindustrialisation, montée du tertiaire, étalement urbain, des engagements de l'État, d'État social surtout, décomposition de la gauche, fermeture du champ des possibles pour toute une génération. Leurs effets particuliers dans les villes moyennes, les croissances démographiques, paupérisation, etc., etc. Mais aussi, ça a permis de, cet ouvrage a permis de dévoiler les aspirations, les déceptions, les espoirs, les angoisses d'un groupe social particulier qui est la petite bourgeoisie culturelle et à travers ça, la fin d'une alliance de classe de gauche grâce aux maisons de la culture, une certaine forme de keynésianisme, d'une certaine présence des services publics qui était portée par la démocratisation scolaire et patrimoniale. Voilà. Mais malheureusement, tout ça, ça a été invalidé par la disqualification des classes populaires et des classes ouvrières, et voilà, qui a été mis de côté. Et ça fait un peu voler en éclats tout ça. Et ce qui est assez intéressant, il le dit dans la podcast, hein, Nicolas Renaï, c'est faire attention, donc cette notion de petite bourgeoisie qui peut avoir un caractère polémique, attention, voilà, c'est pas pour dire qu'ils sont illégitimes ou l'accusation, voilà, faire des procès, faut pas être, attention à une grille de lecture trop univoque qui est idéologisée, mais quand même, faut saisir la question d'une domination, mais voilà, faire attention, pas trop l'évoquer frontalement, mais à froid, comme vous dites, sociologiquement, quoi, pas faire des mauvais procès. Et lui, ce qu'il dit, Nicolas Renaï, il dit que cette petite bourgeoisie-là, culturelle, elle est différente de la petite bourgeoisie économique, parce que la petite bourgeoisie économique, l'utopie de la bourgeoisie économique, c'est un intérêt gestionnaire, un peu dans l'air du temps macroniste, alors que la petite bourgeoisie culturelle, son utopie, c'est une certaine émancipation, mais individuelle. Individuel par appropriation d'une certaine spécificité culturelle. Alors, par exemple, dans certaines ruralités plus ou moins bourgeoisées, c'est un peu là où vous avez enquêté, ben, les mieux dotés de ce groupe-là, en recomposition, ils vont réinventer des lieux qu'ils appellent autonomes. Ils vont vendre ou acheter des produits artisanaux qui sont bio, ouvrir des boutiques qui s'appellent authentiques, faire des emplois qui disent où ils se réalisent, voilà. Expérimenter des formes d'enseignement alternatifs, voilà. C'est quand même une forme de distinction où ils se redéfinissent par là où ils peuvent rester plus ou moins dominants, enfin, ou se sentir plus ou moins dominants. Voilà, donc c'est pas une forme de... comme le macronisme et l'exploitation, c'est assez différent. C'est pour ça en ça que c'est intéressant cette étude-là pour voir quelle est la différence entre les deux, quoi, entre ces deux formes de bourgeoisie, pas faire de mauvais procès, de traiter d'ennemis de classe, comme on pourrait entendre parfois.
Oui, c'est bien de terminer sur la postface de Nicolas Renaï, hein, que j'aime beaucoup en plus, et voilà, qui permet aussi un peu de monter en généralité, parce que c'est vrai que on est dans le cadre d'une enquête dans une ville moyenne, voilà, du centre de la France que j'ai appelé Lergne. On pourrait se demander, oui, mais ce qui est valable dans ce cas, est-ce que c'est valable ailleurs? Et donc voilà, moi je rejoins Nicolas Renaï, je pense que oui, et que cette fragilisation de la petite bourgeoisie culturelle, on peut la retrouver à l'échelle nationale avec des variations qui dépendent un peu de l'effet de lieu, qui dépendent du contexte géographique. Par exemple, dans les grandes agglomérations, voilà, là où les positions de cette petite bourgeoisie culturelle sont plus stabilisées, plus assurées, là où en fait les listes d'Union de gauche continuent à l'emporter, hein, voilà, ça s'est vu en 2014 et aux élections municipales de 2020, hein, les grandes agglomérations continuent d'être gouvernées par des listes d'Union de la gauche. Mais voilà, il y a quand même un mouvement de fond de fragilisation qui est dans l'air du temps, qu'on peut mesurer d'un point de vue strictement matériel, en fait. Hein. C'est-à-dire, où est-ce qu'on met le fruit de la production. Je donne un chiffre comme ça qui est intéressant, mais pendant les politiques culturelles langues dans les années 80, on a obtenu le montant record de 1% du PIB qui était dirigé vers la culture. Comme ça, on se dit 1% du PIB, c'est rien du tout. Mais en fait, voilà, c'est un maximum qui n'a jamais été atteint à nouveau. En fait, la question plus générale, je trouve, que pose ce déclin de la petite bourgeoisie culturelle, c'est celle de, voilà, qu'est-ce qu'on fait, en fait, des fruits de la production. On est dans une période, en fait, où les gains de productivité ont quand même jamais été aussi élevés. Et où on se retrouve en fait paradoxalement à détourner ces gains de productivité de politiques émancipatrices, en fait, que ce soit des politiques éducatives, des politiques culturelles, qui ont quand même accompagné des mouvements d'émancipation, d'ascension sociale, et qui a permis en fait l'ascension collective de cette petite bourgeoisie culturelle. Voilà, ça permet de rappeler ça que, bah, d'une part, c'est pas la description d'un déclin qui serait inexorable. Qu'en fait, tout ça dépend de choix politiques, de politiques publiques, de projets collectifs, et donc que ce mouvement peut être stoppé ou qu'on peut faire marche arrière. Et ensuite, la postface de Nicolas Renaï, je la trouve aussi intéressante parce qu'elle vient effectivement de souligner que même si elle est fragilisée, déstabilisée, cette petite bourgeoisie culturelle, elle continue d'exister. Voilà, notamment dans d'autres espaces. Le lien avec la néo-ruralité est intéressant de ce point de vue-là. Alors, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, hein. D'ailleurs, si ça intéresse les auditeurs, je renvoie à cet ouvrage voilà, de la fin des années 70, début des années 80, qui s'appelait Les Utopies du Retour, un bouquin de Daniel Hervieux-Léger, qui a été réédité, hein, qu'on trouve facilement, et qui, voilà, qui s'intéresse justement, on pourrait dire, aux déçus des illusions qui ont suivi 68. Notamment au fait que ben voilà la révolution elle arrivera pas dans les grands centres urbains et que du coup ben, il faut la faire quand même ici et maintenant quitte à ben, gagner alors bon l'Ariège la Drôme les Cévennes aussi hein, pour parler voilà pour parler de d'un coin que vous connaissez bien. Et là-bas, en fait, on pourra du coup ben, construire, avancer sur nos utopies.
Élie Guiraud, donc le déclin de la petite bourgeoisie culturelle qui a été publié aux éditions Raison d'agir. Eh ben, on vous souhaite bonne continuation et on vous dit au revoir.
Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation et bonne continuation également. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les premiers et troisièmes mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.